Mise en route des systèmes informatisés. Lancement de la causerie en mode confiné. Accrochez-vous, pandémie ou pas, votre émission est là.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Soyez les bienvenus dans La Causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Une causerie un peu particulière enregistrée donc la veille de sa diffusion, c'est-à-dire samedi 6 à 15h30, sous une luminosité, oh là, c'était dur à dire ça, sous une luminosité un peu étonnante liée au sable du Sahara qui viennent jusqu'à Lyon pour nous caresser la chevelure. C'est sympa, non? Voilà. Et donc ce soir, nous avons...
Il faut avoir des cheveux pour ça.
Ah, c'est vrai. Discriminant pour les gens qui n'ont pas de cheveux, c'est pas très cool. Bon, alors nous tomber sur la tête, ça marche pour tout le monde? Allez, on va dire ça.
C'est ça. Bonsoir.
Bonsoir Clara. Et on a Jean-Yves aussi.
Bonsoir. Et une émission qui n'est plus si particulière que ça, vu que ça fait maintenant quelques mois qu'on ne fait plus que des émissions confinées et donc enregistrées la veille. Oh, c'était en passant.
Ça n'était pas rendu compte en fait.
C'était ma soirée.
Ah bon?
Oui, oui.
Moi, je me disais que les studios de Canu étaient vachement plus grands qu'avant. Moi, c'est tout, j'étais content. Mais non, non, bon. Et donc, pour nous joindre, c'est lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. Pour aller nous écouter, c'est sur blogs.radiocanu.org/lacauserie. blogs.radiocanu.org/lacauserie. Et je précise juste que oui, nous allons remettre les anciennes en état pour que vous puissiez les écouter, parce que le lecteur, il a disparu. Oui, on est en train de les remettre une à une, petit à petit. On prend notre temps, parce que c'est fait à la main, à l'ancienne. Voilà. Et on va démarrer cette émission ce soir avec un texte que tu voulais lire, ouais. Jean-Yves, autour de ce qui se passe en Russie en ce moment.
Oui, tout à fait. C'est une déclaration d'anarchistes et d'anarcho-syndicalistes à propos des manifestations des partisans de Navalny. C'est un texte qui est apparu le 30 janvier 2021 en Russie sur le site KPAC AIT. En fait, c'est lié à la CNT AIT, en fait, syndicat anarcho-syndicaliste. Alors, le texte. Nous, anarchistes et anarcho-syndicalistes, considérons qu'il est totalement inacceptable de participer à un quelconque spectacle politique organisé par les partisans du populiste de droite, Navalny, qui est devenu tristement célèbre pour ses déclarations ouvertement nationalistes, anti-migrants, anti-caucasienne et antisémite. Rejoindre les rangs des manifestations qu'ils appellent de leur vœu serait, indépendamment de toute excuse ou explication, se transformer en l'entourage d'une bande politique engagée dans une lutte sale et sans principe pour le pouvoir. En tant qu'anarchistes, nous pensons que l'actuel régime autoritaire du Kremlin, qui a succédé à la clique néolibérale d'Eltsine, et la faction opposée dirigée par Navalny, qui cherche maintenant à prendre le contrôle de toute la masse des mécontents, ne sont que l'expression des intérêts des véritables dirigeants du pays, l'oligarchie dominante et son talon de fer. Soutenir l'un de ces camps est totalement contraire à nos croyances anarchistes et à notre objectif social révolutionnaire. s'engager dans des luttes de pouvoir entre divers partis, coalitions et cliques, traduire le mécontentement social plus que justifier des gens en une politique pourrie ne fait que distraire la classe ouvrière de la lutte pour ses véritables intérêts sociaux, de l'éveil de la conscience de la classe ouvrière et, en fin de compte, de la libération sociale et personnelle. Nous, anarchistes, prônons la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers anarchistes, radicaux de gauche et sociaux, qui croupissent aujourd'hui dans les cachots de l'oligarchie. Mais nous sommes convaincus qu'une telle issue doit être poursuivie de manière indépendante, sans devenir de véritables serviteurs, volontaires ou non, de ceux ou d'autres prétendants au pouvoir politique qui nous sont étrangers, dans le but de poursuivre les mêmes politiques antisociales et néolibérales dans l'intérêt du capital. Nous ne pouvons pas lutter aux côtés de ceux qui n'ont pas empêché la privatisation totale et la destruction des soins de santé et d'éducation abordables, qui ne se sont pas opposés à la réforme anti-humaine des retraites, qui ont soutenu l'année dernière l'introduction d'un système terroriste universel de surveillance et d'assignation à résidence sous le prétexte de lutter contre l'épidémie. Il n'y a pas de moindre mal pour nous et nous ne nous allions pas avec notre ennemi, même lorsqu'il est l'ennemi de notre ennemi. Pas de lutte politicienne pour la résistance sociale des anarchistes et anarcho-syndicalistes. Voilà. En fait, je trouvais que c'était intéressant de le lire parce que c'est toujours intéressant d'avoir des sons de cloche des gens qui vivent les situations au plus près. C'est toujours intéressant, comme quand il y a un mouvement social dans l'Hexagone. C'est bien de pouvoir faire de la com vers d'autres camarades dans le monde, des compagnons et des compagnons dans le monde, pour qu'ils aient un son de cloche qui soit au plus près de la situation, en fait. Et que là, justement, enfin, que ce soit en plus une déclaration d'anarchiste et d'anarcho-syndicaliste.
Russe, hein, de Russie, en tout cas,
oui, c'est ça. C'est aussi affiner les choses, en fait, parce qu'effectivement, quand on regarde ici, quand tu vois tous les gens qui sortent, etc., parce que Poutine, c'est de la merde, et qu'en même temps, c'est pour défendre Navalny, et qu'avec la distance, j'ai pas forcément toutes les connaissances sur Navalny, etc., et bien, je trouve que ce texte et cette déclaration d'Anar revient un petit peu mettre les idées au clair sur ce qui se passe en Russie avec les vraies positions. Parce que Navalny, il est vraiment présenté ici comme un opposant, mais finalement, être un opposant à un dictateur, en fait, c'est très vaste, quoi. Enfin, c'est un autocrate ou un autoritaire, ou comme vous voudrez appeler Poutine. Et que je trouve que c'est vraiment intéressant de juste pas rester cantonné à pouvoir fort et opposition, parce que finalement, de l'opposition à Poutine, je pense qu'il y en a une diversité assez importante. Enfin, en tout cas, philosophiquement, politiquement parlant. Donc, je voulais partager ça.
Ouais, et puis en fait, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est que il y a deux trois chaînes d'information ou de télévision plutôt et de radio d'ailleurs, qui ont essayé un peu de rappeler qui était Navalny en traçant son portrait. C'est le cas notamment d'Arte, ouais, qui a fait un excellent portrait de Navalny, et ils se sont fait rentrer dedans parce que les gens disaient oui, mais mieux vaut Navalny que Poutine. Honnêtement, moi, j'en sais rien. Parce que compte tenu des prises de position du bonhomme, le fait que quand même il ait manifesté aux côtés de l'extrême droite russe, qui appelle quand même à tuer les non-slaves, donc ce qu'on appelle les caucasiens, donc les non-slaves, parce qu'ils disent que seuls les slaves ont le droit d'habiter, d'être en Russie, ça interroge quand même. Et à un moment donné, alors évidemment, les gens disent « oui, mais il était là, mais en fait, il ne partage pas leurs idées ». Peut-être, sauf que moi, je ne l'ai pas vu s'exprimer finalement là-dessus, je ne l'ai pas vu s'excuser dessus, c'est ce que d'ailleurs soulignaient plusieurs journalistes en disant « qu'il soit là par erreur peut-être, mais en attendant, il s'est jamais positionné clairement sur ces questions-là. Il a aussi tenu des propos plus ou moins conspirationnistes et beaucoup antisémites à une période que maintenant il dit que les gens ont mal interprété. Alors c'est toujours un petit peu la même chose, quoi, dans ces cas-là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est quand même de voir que la Russie aujourd'hui, Poutine s'est débarrassé de toute son aile gauche et anarchiste. Il les a foutus en tôle. Ils ont été assassinés, ils ont été massacrés pour certains, et c'est une réalité. Et ça, en fait, on en prend conscience aujourd'hui parce que le seul, finalement, leader, entre guillemets, qui émerge, c'est un leader nationaliste d'extrême droite. Et je pense que pour Poutine, c'est un vrai jeu. C'est-à-dire qu'en fait, avoir Navalny en face, c'est pratique. Parce que même si Navalny arrivait au pouvoir, les amis oligarques de Poutine ne craignent pas grand-chose, et ils le savent. Donc, l'un dans l'autre, personne ne perd au jeu, quoi, en fait. Et il faut se méfier de ce jeu de dupes qui est en train de s'installer, et des amitiés qui existent entre les uns et les autres. Parce que, par exemple, il y a des gens qui disent que Navalny a dénoncé les excès de Poutine et de ses amis. Mais étonnamment, et c'est ce que soulignaient plusieurs journalistes russes, Navalny n'a jamais, enfin russes en fuite, hein, parce qu'ils sont plus en Russie, ces journalistes-là, Navalny n'a jamais, dans l'autre sens, dénoncé des choses qui viennent de ses proches, alors qu'on sait qu'il y a des scandales aussi qui venaient de soutien qu'il a. Et donc, en fait, il dit, bah, c'est un peu le deux poids, enfin, comment dire, pas deux poids, deux mesures, mais semi-aveugle, comme on dit dans ces cas-là, et il faut se méfier, en fait, des gens qui sont trop beaux pour être vrais. Voilà.
Ouais, qu'encore une fois, on retombe de nouveau dans quelque chose qu'on connaît aussi ici, c'est-à-dire, comme le disaient d'ailleurs les compagnons russes, c'est toujours cette notion de l'ennemi de mon ennemi, finalement, il peut devenir un peu mon ami. Et ben, en fait, non, en fait, enfin, je pense pas, je pense que c'est très dangereux. Ça nous l'a prouvé à maintes reprises à travers l'histoire dans le monde, hein, d'ailleurs, j'ai envie de dire, des cocos qui peuvent, on va dire, collaborer ou soutenir une révolution qui finalement les réduira au premier revers en bouillie, parce que je pense à la révolution iranienne islamiste, parce qu'on voulait se débarrasser du Shah finalement, ben on s'est dit oui il fallait une révolution, ben, sauf qu'en fait ceux qui ont fait la révolution ben ils ont bien fait comprendre que c'était pas la tienne quoi.
Et ils savent pourquoi ils se battent.
Mais oui c'est tout ce truc là qu'il y a toujours cette notion de devoir choisir entre la peste et le choléra, et que c'est un binarisme en fait qui je pense vraiment nous amène à notre perte, parce qu'en fait ouais d'un coup t'en es à te dire ah ben vaut mieux un nationaliste antisémite opposant à Poutine que Poutine. Mais si tu poses ça calmement tu dis
Bah non,
en fait, c'est pas possible. Et ben là, des fois, on peut dire, ah ben si, quand même. Ben non, en fait, je pense que vraiment, enfin, il y a pas de moindre mal. Et c'est vraiment très intéressant ce qui déclare justement les compagnons.
Et juste, si vous voulez soutenir les gens qui sont enfermés aujourd'hui en Russie, en Biélorussie et dans beaucoup de pays, rapprochez-vous, vous tapez sur Internet anarchiste Black Cross en anglais ou la Croix Noire anarchiste en français, et vous trouverez en fait des groupes qui font des caisses de soutien, qui font de l'aide, qui vous proposent aussi d'écrire aux prisonniers, parce que des fois ça fait du bien de recevoir une lettre et de savoir qu'on n'est pas tout seul. Donc voilà, n'hésitez pas.
Ouais, et il y a plusieurs antennes d'anarchistes Black Cross, il y en a à Marseille, mais il y en a aussi, justement, je crois qu'il y en a une. C'est à Moscou, en Ukraine, je ne sais plus.
En Ukraine.
Ben bref, voilà, on vous a filé 2-3 infos et n'hésitez pas effectivement à aussi les faire tourner autour de vous, parce que, encore une fois, le sort des autres ailleurs dans le monde nous concerne aussi, de mon point de vue. Et ben voilà, moi je vous propose que nous passions un petit peu de musique.
Oui, de la musique pour se détendre un peu.
C'est ça.
Young, oh, and the holidays went on and on. We were
Et c'était When I Was Young de Mo pour vous sur la causerie, sur Radio Canu, pardon.
Ouais, ouais. Ça,
je vais y arriver.
Ça fait pas très longtemps qu'elle est dans l'émission. Elle le
sent. Non, voilà, oui, ben voilà.
Elle apprend, voilà. Elle apprend, c'est normal.
Eh ben, c'est Fab qui prend la suite et tu vas nous causer Cinoche.
Ouais, je vais parler cinéma, même si on ne peut pas aller au cinéma. Parce qu'en ce moment, ils sont fermés, mais parce qu'en fait, on peut voir quand même du cinéma ailleurs qu'au cinéma.
Ah ouais, non, mais. Enfin, pardon, non, on rentre pas dans un débat culturel.
Donc, non. Donc, ce soir, je vais vous présenter deux courts-métrages que j'ai trouvé intéressants personnellement et qui tournent autour de l'amour. L'amour entre deux hommes en particulier. Pourquoi j'ai eu envie de vous les présenter ? Bah, c'est suite à une discussion virtuelle que j'ai eue avec une personne membre de l'Éducation nationale qui me disait manquer de matière pour montrer des films sur l'homosexualité à ses secondes. Seconde étant la classe. Hein. Voilà. Et je dois dire que ça m'a fait bizarre de me rendre compte que tout un pan de la culture du cinéma était finalement méconnu parce que des films, il y en a plein, et notamment des courts-métrages. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais présenter ces deux courts-métrages qui sont sortis cette année, que j'avais eu la chance de voir, et ils sont accessibles en ligne gratuitement. Donc, c'est plutôt cool. Comme ça, vous pourrez aller les voir. Et comme on est sympa, on les mettra sur le blog parce que nous, on est super gentils à la causerie.
Voilà. On est super sympa, beaucoup plus sympa que les autres.
Voilà.
Oh, c'est juste, pardon, big up à Stupéflip.
Ben, ouais.
Voilà. On a les mettre à penser qu'on veut et qu'on peut.
Bon, on peut y aller ?
Oui.
Alors, on va commencer. Donc, le premier court-métrage que je vais vous présenter, il s'appelle Baltring. C'est un court-métrage réalisé par Josa Anjembe, pardon, et qui offre en fait un film d'une vingtaine de minutes. Voilà. Donc, c'est une réalisatrice qui commence à être plutôt reconnue comme étant une réalisatrice de poids, comme on dit dans le cinéma, c'est-à-dire quelqu'un qui sait bien réaliser. Voilà. L'acteur principal, c'est Alassane Diong, qui lui est de tous les plans. Donc, on le voit pendant les 20 minutes que dure le court-métrage tout le temps. Et on peut dire qu'il crève l'écran. Hein. Son jeu est juste, tout en retenue. Et il fait passer des tonnes d'émotions par le regard. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir la capacité de jeu qu'il a. On retrouve aussi Johan Zimmer. Alors, vous avez pu le voir, si vous avez vu le film Été 85, il faisait un second rôle, voire un troisième rôle dans ce film. Ben, voilà, donc son visage ne vous sera pas forcément inconnu si vous avez vu le film. Et lui, il est belge d'origine. Et il campe une sorte de personnage littéraire un peu lunaire, un peu perdu, mais en même temps un peu rude. Donc, c'est, voilà, il est un personnage moins simple que ce qu'on pourrait l'imaginer de prime abord. Mais alors, de quoi ça parle, du coup ? Parce que c'est ça, la question. De quoi ça parle ?
Bah, d'amour entre deux hommes.
Ah oui, mais surtout d'un amour impossible. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pas n'importe où que ça se passe en prison. C'est ça qui rend, du coup, pour moi, le court-métrage encore plus intéressant. Oui, parce que Issa tombe amoureux de Gaëtan, donc c'est les deux noms des personnages. Pendant une promenade, ils sont tous les deux là, on ne sait pas trop pourquoi ils sont en prison, hein, ni l'un ni l'autre, on ne vous explique pas vraiment ça, et ça n'a pas forcément une importance d'ailleurs. Mais c'est la prison qui va les réunir dans cet établissement spécial, qui est un établissement où la détention est semi-ouverte, c'est-à-dire où les détenus peuvent se déplacer, par exemple pour aller à la bibliothèque ou des choses comme ça, mais toujours dans l'enceinte de l'établissement uniquement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans une prison où chacun est dans sa cellule et voilà, ils peuvent se croiser, et ce qui explique, bah, du coup, qu'ils se croisent. Voilà, parce qu'il y a des gens qui auraient pu dire, mais en prison, comment on fait ? Bah, comme ça, par exemple. Donc, l'ambiance, elle est très bien rendue. Elle est assez dense, parfois très lourde, comme peuvent le ressentir les personnages. En fait, la réalisatrice arrive justement à mettre une coloration à chaque pan de son film en fonction un peu de l'état d'âme de ses personnages et du moment. Je fais juste comme ça une parenthèse, mais c'est très étonnant de voir une promenade très peu éclairée quand on est en train de se demander où on va, une scène de douche extrêmement sombre et très enfermante, et une bibliothèque d'un seul coup qui ressemble à un paradis où tout est éclairé, où tout d'un seul coup est merveilleux. On voit qu'il y a un jeu aussi sur les sentiments qui est extrêmement bien rendu à l'image.
Oui, voilà. Même l'ambiance même d'un lieu et ce qu'il évoque, en fait.
Oui, c'est ça.
Finalement, enfin,
ouais. Ben, la bibliothèque, c'est l'évasion. Donc
oui, oui, c'est ça. Et que voilà. La douche à 10, c'est forcément toujours trop serré. Quoi,
c'est forcément glauque, quelque oui. part, voilà. On pourrait penser, que pour ces personnages, l'extérieur serait un signe de liberté. En fait, on se rend assez vite compte que non, l'extérieur n'est pas forcément un signe de liberté. C'est une question, un signe de liberté. C'est une question de point de vue, d'où on se place et de ce qu'ils vivent. Et c'est là que ça devient aussi très intéressant parce qu'en 20 minutes, on arrive à vous parler pas que d'amour, pas que d'un amour impossible, mais aussi de ce qu'est la prison, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle peut être intimement pour la personne. Voilà. Donc c'est très très dense, mais du coup très intéressant. à suivre. Donc, en 20 minutes, se construit sous nos yeux une histoire forte, tout en demi-mots, parce qu'on peut très peu parler, parce qu'on est toujours observé en prison, donc c'est compliqué de parler, tout en regard et en sous-entendu. Mais nous sommes aussi donc montrés, ce que je vous disais, la rudesse de la prison, le rejet et la violence des rapports humains au sein d'un établissement où vous enfermez des centaines de personnes dans un espace très très restreint. Et on refuse trop souvent de voir ça en face, et du coup c'est l'occasion, à travers ce film aussi, de pouvoir ressentir un petit peu ce qui peut se passer ou les rapports de force qui peuvent s'instaurer. Même si ce n'est pas un film sur la prison, c'est plutôt un film sur l'amour, oui. Mais il y a quand même ce background, j'allais dire, mais je n'aime pas ce mot-là, qui est quand même très présent. La réalisatrice, donc, elle arrive à filmer au plus près sans jamais tomber dans les effets faciles et larmoyants. C'est ce que j'ai aimé dans son film, d'ailleurs. Elle arrive au contraire à faire jaillir que même au milieu de l'enfer carcéral, le désir, l'envie, l'amour peuvent émerger de la façon la plus inattendue, mais aussi la plus simple, finalement, qu'il soit. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. Définitivement, Baltringue, c'est un très bon cours qui permet de mettre en lumière plus que son histoire d'amour, tout en nous amenant dans l'histoire en elle-même. Et à noter aussi qu'il y a une musique originale à la fin, qui est un rap qui est assez sympa. Et comme j'étais très feignant, j'ai oublié de noter quel était l'artiste qui faisait ce rap. Donc, je vous invite à regarder le court-métrage jusqu'à la fin pour lire le nom de l'artiste.
Au début, j'ai cru que c'était La Gale.
Oui,
mais
ça, oui,
il y a un côté. Il y a un timbre de voix qui est un peu à La Gale, mais c'est pas elle.
Voilà, donc c'est Baltringue. Et donc, c'est de Josa, je vais pas y arriver, Josa Anjembe. Et je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que vraiment, c'est très, très, très bon.
Ouais, et puis enfin, je trouve qu'il y a même, enfin.
Parce que tu l'as vu aussi.
Oui, je l'ai vu aussi. Et en fait, je trouve qu'il y a même aussi une ambiguïté dans les rapports, en fait.
Oui.
Enfin, il y a.
Ne raconte pas.
Ouais, c'est hyper compliqué. En plus, c'est un court métrage. Alors, si je vous dis la moitié, ça sert à plus rien de regarder les minutes. Mais non, mais c'est vraiment ce rapport-là hyper ambigu, en fait.
Le rapport humain.
Il y a des postures très très macho-virilistes. Et en même temps, on n'est pas tant sûr de cette virilité-là. Il y a quelque chose de très surjoué.
Il y a un mode survie qui se met en place dans la prison qui est très bien rendu.
Ouais,
en fait.
Ouais. Voilà. Enfin voilà, je ne vais pas en dire plus, mais regardez-les et faites-nous vos retours.
Voilà.
Et le deuxième, donc.
Eh ben, PD. Eh oui, le deuxième s'appelle PD. C'est le long du court-métrage. À la réalisation, on retrouve Olivier Lallard, que vous avez sûrement déjà vu pour d'autres courts-métrages, mais qui est très intéressant. Et il se colle à la réalisation. Et franchement, c'est un excellent réalisateur. Enfin, moi, je trouve qu'il a une bonne patte, comme on dit. Voilà. Les deux acteurs principaux, ils m'ont vraiment surpris parce que je ne les connaissais pas, ni l'un ni l'autre. Voilà, donc c'est Paul Gomérieux qui campe le personnage de Thomas, un lycéen sympathique de 17 ans, introverti, mais pas trop, mais surtout qu'on n'a jamais vu avec une femme. Voilà. Et l'autre, c'est Jacques Lepesqueur qui campe le personnage un brin macho d'Esteban quand même, voire même très macho. Voilà. Et donc,
c'est un bonhomme, quoi.
Ouais, c'est un bonhomme, un vrai, quoi. C'est un fédé. Ah ben voilà, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Et donc, du coup, c'est très intéressant de voir un petit peu ces deux personnages campés par deux acteurs qui, justement, les incarnent vraiment parfaitement. Et ils sont, je sais pas comment dire, ils arrivent à être très ambigus dans leur rôle, tout en n'étant pas caricaturaux. Et c'est très intéressant justement de voir, d'avoir la capacité de jouer cette ambiguïté-là sans tomber dans une caricature facile. Le court-métrage faisant 35 minutes, il aurait été simple de faire de la caricature pour aller vite. Et là, il y a le choix quand même d'être plus subtil et de mettre des touches petit à petit dans chaque personnage, de les faire évoluer. C'est vraiment très intéressant à voir. Alors, de quoi ça parle, PD, ce court-métrage ?
Bah, d'amour entre deux hommes.
Oui, c'est pas que... mais faut suivre un petit peu.
J'en ai déjà parlé.
Voilà. Non, en fait, c'est surtout un film, au-delà de l'amour entre deux hommes, c'est surtout un film sur la révélation à soi-même. Vraiment, l'idée du film, elle est là. Et ce moment, en fait, où vos amours se mettent en place, où vous savez que vous allez aimer des hommes, des femmes, ou les deux, ou peut-être même que vous aimerez sans vous soucier du genre. Enfin, ce moment dans la vie où, d'un seul coup, on se rencontre lorsqu'on n'est pas hétérosexuel, parce que souvent, quand on est hétérosexuel, on n'a pas besoin de s'en rendre compte, vu que c'est la norme. Mais on se rend compte qu'on a un petit truc qui n'est pas pareil et qu'il va falloir qu'on l'assimile quand même, ce petit truc. Mais il y a un mais, vous n'êtes pas seul dans la société. Le regard des autres pèse, il est lourd, il peut être parfois violent. Et il va falloir avancer dans ce monde où le mot PD, justement, est tellement banalisé. Et juste, le réalisateur, en fait, incite beaucoup sur cette notion-là, mais c'est assez intéressant. Et ce mot PD, il est employé par des gens se disant pas du tout haineux envers les homos, mais qui perpétuent le fait que ce soit une insulte d'être traité d'homosexuel. Et le film m'apporte sur toutes ces ambiguïtés-là et sur toute la, voilà, sur toute la notion de la façon dont on parle, la façon dont on parle aux autres, la façon dont on s'exprime, peut avoir un impact aussi sur les gens qui sont en découverte de leur sexualité, en découverte de leurs amours, et que du coup, voilà, le film en parle très très bien.
Mais c'est-à-dire que quand tu es entouré de gens qui n'ont comme mot à la bouche ou comme seule insulte, sale PD.
Ou enculé d'ailleurs.
Ou enculé aussi, oui. Si tu devais te retrouver finalement dans une sexualité qui est autre que hétérostricte, et ben forcément, si tu vas dire, mais attends, si c'est autant, enfin, ouais, ça, en fait, on intègre des choses en fait, de par le vocabulaire des gens autour de nous et de la société, quoi. Et t'as dit dans quel milieu ça se passait?
Alors ça se passe au lycée, hein. J'ai oublié de vous le dire parce que c'est un lycée de 17 ans.
Ouais, ah voilà. Oui, bah pardon. Ouais.
J'ai oublié de le dire peut-être, mais voilà. En tout cas, ça se passe au lycée. Donc, c'est vraiment à la période où on se découvre vraiment. Les deux personnages sont des jeunes de 17 et 18 ans, a priori, si j'ai bien suivi. Mais voilà. D'ailleurs, l'idée du réalisateur, c'est bien d'interroger ce mot, hein, ce phonème de PD. Et d'ailleurs, c'est assez bien pensé dans le film parce que ça revient beaucoup, mais ça revient pas tellement plus que ce qu'on peut entendre dans la vraie vie. C'est en dehors du cinéma. Donc, non, il y a des gens, hein, j'ai vu des critiques qui disent oui, mais ils insistent beaucoup. Alors, j'invite les gens quand même à écouter autour d'eux et de se rendre compte à quel point c'est banalisé, qu'effectivement, on l'emploie très ou trop couramment. Et il fait d'ailleurs, le réalisateur, il appelle un acteur que j'adore qui s'appelle Marc Rizzo, qui campe un professeur, voilà, et qui va faire un cours magistral. Je dis ça, mais pas du tout, parce qu'il va plutôt se confronter aux élèves volontairement, très loin du cours magistral. Et il va faire s'interroger les élèves sur c'est quoi ce mot, pourquoi vous l'employez, pourquoi en fait c'est récent que ce soit une insulte d'être homosexuel, et pourquoi Jules César était le plus grand des PD. Enfin bref, voilà, je vous laisse découvrir tout ça. c'est très intéressant. Et Marc Rizzo, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, alors si vous regardez la série Je te promets sur TF1, il campe un des personnages principaux, donc vous devriez le reconnaître. Et pour ceux qui ont vu le film que j'ai adoré qui s'appelle La maman des poissons, il a un rôle juste génial à l'intérieur. Voilà. Donc au final, ce court-métrage, qui est donc de 35 minutes, il tente de mettre en lumière que si la société change et avance, elle n'est pas encore sûre pour les personnes n'ayant pas une sexualité ou un genre majoritaire. Elle est encore oppressante. Et il y parvient en allant crescendo vers la scène finale, qui est un véritable moment de force pure. Bon, vraiment, je vous invite à regarder, à surtout pas le couper, c'est à regarder les 35 minutes d'affilée, et vous allez voir, il est puissant. D'ailleurs, le parcours des personnages est plus intense et intéressant. Et il parlera à plus d'une personne ayant eu à faire son coming out dans sa vie et surtout ayant eu à s'aimer et à s'accepter soi-même, parce que c'est souvent le plus dur de s'aimer, de s'accepter soi. Donc, je terminerai en parlant de la musique qui est très bien choisie et dont certains morceaux ont été créés uniquement pour le court-métrage. Et vous retrouverez tout ça sur Internet parce que le réalisateur a mis tout en ligne, les musiques qui ont été créées, le court-métrage, mais aussi, et je vous conseille vraiment de le regarder, un making-of, c'est-à-dire comment ça a été fait, et regardez aussi, écoutez les acteurs, comment ils se sont appropriés leur rôle et comment ils ont tourné certaines scènes, et aussi un bêtisier qui est très drôle. Et voilà, donc vous avez tout ça en ligne, donc n'hésitez pas. Donc PD, que vous trouverez sur YouTube, parce que la censure étant ce qu'elle est, sous le nom de FAG, qui veut dire PD en anglais. Ouais, et voilà, vous le trouverez peut-être plus facilement. Voilà, c'est un excellent court-métrage et il mérite d'être vu et connu. Voilà, je crois que tu l'as vu.
Oui,
il t'a plu.
Oui, oui. ouais, mais parce que justement, en fait, c'est il y a plein de trucs dedans, en fait. Il y a effectivement cette interrogation, finalement, sur cette haine des homos qui, en fait, est très culturelle, en fait, finalement. Et que si c'est culturel, c'est que donc, il n'y a rien de figé. Et que si ça se perpétue, c'est bien aussi parce que nous, en tant qu'humains, on est un peu abrutis. Enfin, tout ça. Et merde, je suis perdu.
Ah, j'ai perdu, genre, parce que j'ai fait des signes.
et que après, il y a aussi, oui, en fait, sur le poids du regard des autres et le poids de notre propre regard et de toute cette haine ou toutes ces peurs qu'on a pu intérioriser justement parce qu'on est dans une société qui n'accepte pas tant que ça, il faut arrêter quand même de se mentir.
La différence.
La différence, en fait. Donc, c'est vraiment hyper intéressant et c'est très beau. Et c'est aussi toujours sur les rôles aussi qu'on peut revêtir quand on est des mecs, hein, on est des bonhommes, enfin, tout ça. Et que c'est vraiment hyper intéressant et que ça se passe dans un moment et dans un lieu où il y a quand même quelque chose. C'est quand même parfois négatif, je pense. C'est le poids du groupe.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que les lycéens et les lycéennes, c'est un groupe. Et tout groupe peut opprimer. Vraiment, je le pense fondamentalement. Et que le groupe, il peut être aussi déconstruit qu'on veut. Toute position de pouvoir peut toujours venir, en fait. Et que là, c'est bien démontré aussi. Enfin bref, c'est hyper intéressant. Ça.
Et donc, du coup, on va encore me dire que je parle de deux courts-métrages qui parlent d'homosexualité et de violence faite aux personnes gays. Parce que je sens que je vais avoir ce genre de réflexion. Et on va me dire, mais oui, pourquoi tu présentes encore ça? Alors, je vous le dis franchement, j'aurais adoré vous présenter autre chose. C'est-à-dire qu'on soit dans un monde idéal où il n'y aurait plus à présenter tout ça. Et promis, j'essaierai de plus vous parler de films qui parlent de massacres, qui parlent de choses comme ça. Parce qu'un jour, je pense qu'on arrivera à sortir de tout ça. Mais malheureusement, on n'y est pas. Donc, bah oui, il reste encore bien des choses à montrer pour que cessent les oppressions. Donc, oui, c'est aussi le rôle de l'art et du cinéma de montrer les plaies de notre société pour que nous puissions mieux les soigner. C'est son job à l'art et en fait là il est très bien fait. C'est cool de prendre le court métrage pour montrer et se servir de tout ça. Alors j'espère que vous prendrez le temps d'aller voir ces deux courts métrages. Encore une fois, ils seront sur le blog normalement, ouais, si ça fonctionne, et que vous ferez des retours en commentaire ou par mail. Moi je suis très preneur si vous avez le temps et si vous avez envie de laisser un petit commentaire ou d'envoyer un mail à l'émission pour me dire ou nous dire tous ce que vous avez pensé de ces deux courts métrages. Et pour les profs, parce que je reviens à mon truc de départ, appuyez-vous sur l'un de ces deux courts-métrages, voire les deux, pour parler d'homosexualité, mais peut-être pas que. Ce serait peut-être marrant de parler de la prison et de ses conditions, de parler un petit peu de l'effet de groupe aussi dans d'autres aspects, de parler de la notion d'acceptation, tout ça. Voilà, tentez le coup.
De masculinité
toxique.
De construction sociale.
Tentez le coup.
Ouais, enfin, ouais.
Voilà, donc servez-vous.
Et alors moi, je dirais même…
En plus, c'est gratuit.
Ouais, alors c'est pour les profs, mais ça s'adresse aussi aux parents, aux grands-parents, aux jeunes, en fait, à toutes et tous, en fait. Non, mais vraiment, parce que, il y a effectivement, c'est en lien avec la discussion que tu as eu au départ.
C'était pour revenir à mon point de départ.
Évidemment, mais.
Mais c'est vrai, c'est vraiment.
Parce qu'elle est bien ficelée, sa chronique. en fait, toutes ces choses-là, elles s'adressent à toutes, quoi, et à tous, en fait. Parce qu'à un moment donné, tout faire reposer finalement sur les profs, etc. À un moment donné, c'est aussi, il faut arrêter de se leurrer.
Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, il faut que tout le monde regarde.
Tout le monde regarde ça, mais vraiment, et même entre parents et enfants, et bien, regardez-les ensemble. Et si ça peut créer une discussion, un débat, un échange sur, finalement, c'est quoi une norme? C'est quoi finalement être homo, hétéro? Est-ce que c'est si important et définissant de nous? Enfin, et vraiment, saisissez-vous des choses comme ça pour justement aussi ne pas attendre que le grand soir et le changement de gouvernement ou je sais pas quoi, en fait. Enfin,
et c'est deux courts-métrages que vous pouvez, à mon avis, montrer à partir de l'âge de 12 ans sans trop de problèmes. Vous les regardez avant, mais je pense qu'il n'y a aucun souci. Voilà, c'est même bien. Comme ça permettra à vos enfants ou à vos neveux et nièces, quoi, tout ce que vous voulez, de mettre un pas dans un monde qui n'est pas uniquement rempli de princesses qui épousent des princes et qui hurlent beaucoup d'enfants.
C'est ça.
Voilà. Eh ben, on va faire une petite coupure musicale. Et juste pour dire que la musique qu'on va entendre, vous pouvez la retrouver dans le court-métrage PD. Voilà, je reviens juste après pour vous la présenter. Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Causerie enregistrée à distance, d'où ce son nasillard et étrange que vous entendez, mais tout va bien. Et donc, du coup, on vient d'écouter Ron avec le titre Brest, qui est issu de la bande originale du court-métrage PD, que je vous ai présenté juste avant cette musique. Voilà.
Tout à fait.
Et donc, on va continuer un petit peu côté culture, parce que finalement, ce soir, c'est un petit peu basé sur de la culture. Donc, c'est un livre que tu voulais présenter, Jean-Yves.
C'est ça. Mais avant de vous en dire plus, je vais vous en lire un petit extrait. Ce vendredi 13 novembre 2015, je suis avec deux amis à un concert de rock au Bataclan. Nous sommes là pour boire des bières, écouter de la bonne musique. La vie, quoi. À environ 21h40, c'est par un bruit de pétard que l'histoire me percute. Le temps en me retournant de voir un terroriste, son regard haineux et les flammes sortir du canon de sa calache. Tout s'accélère, je suis projeté en avant dans la fosse. Pendant plusieurs minutes sous le feu, je perds de vue mes amis et parviens, à me réfugier dans un cagibi à droite de la scène. Nous n'en sortons que 2 heures plus tard, libéré par le raid. Les jours suivants, je suis pris dans un tourbillon. Et ce soir, je vais vous parler, donc vous présenter le livre « Journal d'un rescapé du Bataclan, être historien et victime d'attentats » de Christophe Naudin aux éditions Libertalia. C'est sorti, je crois, fin 2020, oui, c'est quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty. C'est pas en lien, mais c'est juste un truc qui m'y fait penser. Donc voilà, 2 mots vite fait sur l'auteur, hein, Christophe Naudin, il a 46 piges, pardon. Il est prof d'histoire géo, il a étudié l'histoire de la Méditerranée médiévale. Il a travaillé sur l'islam médiéval et aussi sur les usages politiques de l'histoire. Et il collabore au site Histoire pour tous. Il a coécrit Charles Martel et la bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire. Donc ça, c'est aussi chez Libertalia en 2015. En fait, c'était un peu une réponse aux identitaires qui ont toujours Charles Martel, Poitiers, machin truc. Et qu'en fait, donc contre l'islam, enfin un truc, voilà. Et donc lui, en fait, il démonte cet argumentaire des fachos. Et il a aussi écrit « Les historiens de garde » de Laurent Deutsch à Patrick Buisson, « La résurgence du roman national ». Il y a eu une réédition chez Libertalia en 2016. Donc là aussi, comment on utilise l'histoire à des fins de roman national.
Et c'est un excellent livre, parce que je l'avais lu. Non, ce n'est pas parce que je l'ai lu qu'il est excellent, c'est parce que je l'ai lu que je peux dire qu'il est excellent. C'est dans le sens, voilà. Et franchement, je ne savais pas que c'était l'auteur de ce livre. Je l'ai découvert en lisant… voilà.
C'est ça. Et donc, ce journal d'un rescapé, sur plus de 130 pages, on lit le journal, qu'on pourrait dire intime, de Christophe Naudin, qu'il commence le 5 décembre 2015. Donc, et qui prend fin le 18 décembre 2018, donc 3 ans en tout de son intime. Et en fait, le tout est suivi ensuite d'une vingtaine de pages, d'une postface d'une vingtaine de pages, qui est en fait une analyse de cette première partie en mode journal, mais avec du recul. Et donc, le journal en lui-même, en fait, c'est une succession de notes, de coups de gueule, de réflexion, de réaction à l'actualité, à ce qui peut se dire dans certains milieux militants, ce qui peut aussi être écrit sur les réseaux dits sociaux, à ce que le pouvoir politique, à ce que les pouvoirs politiques disent, font aussi ensuite, qui font suite, pardon, aux différents attentats qui ont lieu en France, mais pas que. C'est direct, brut, sans recul, sans relecture, on est prévenu. Et c'est une sorte, en fait, moi j'ai trouvé qu'il y avait ça, c'était une sorte d'urgence, en fait, à reprendre pied, à raisonner et à penser le monde, en fait. Il y a aussi des flashbacks, des images aussi qui restent gravées parce que on a vécu ça, comme le regard plein de haine d'un des assassins, comme il le disait, je le disais dans l'intro. Ou encore, désolé pour le détail, mais ce morceau de cervelle qui est là sur un haut-parleur, qui refera plusieurs fois son apparition, ou encore ce jeune homme au t-shirt blanc, mort, qu'il doit enjamber pour sortir. Il y a aussi, évidemment, la perte d'un ami, Vincent, tué par les djihadistes, donc un deuil à faire. Il nous parle aussi de sa thérapie, des avancées, des petits pas qu'il arrive à faire pour avancer, mais aussi des reculades, parce qu'il y en a des fois un petit peu. Il nous parle aussi de ses peurs, des angoisses, des cauchemars, des insomnies. Bref, enfin, il partage aussi ses ressentis sur les collectifs de victimes, sur les cérémonies qu'il peut y avoir. Donc voilà, il écrit, décrit aussi les diverses réactions des personnes de son entourage, aussi bien des amis que des connaissances, que des collègues, et aussi des personnes du milieu militant politique qu'il fréquente, et aussi les réactions de ses élèves, parce qu'il est prof dans un collège. Donc forcément, il y a aussi ce rapport-là qui prend place, en fait. Et il y a dans tout ça, en fait, une envie de comprendre, de reconstituer les choses, de saisir et de tenter, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix, de construire avec, en fait.
Ouais, juste, j'aime bien cette notion parce que dans le livre, il ne parle pas de se reconstruire, non. Il parle de construire parce qu'il dit voilà, on ne se reconstruit pas, et je pense qu'il ne l'écrit pas comme ça, mais un peu, c'est un peu ce qu'on ressent. Voilà, il faut vivre avec, il faut avancer, c'est compliqué, c'est pas toujours facile, il y a parfois le recours même à la chimie pour arriver à s'en sortir. Mais c'est intéressant parce que justement, c'est brut et ça permet de ne pas passer à côté de. Je dirais de ce qui n'est pas de l'émotion dans ce cas-là, mais qui est plutôt du réel. Parce que les gens qui disent c'est de l'émotionnel, non, en fait, c'est du réel. C'est comment, en fait, on ressent concrètement les choses à ce moment-là.
Ouais, il y a un peu un mélange des deux, j'ai envie de dire. En tout cas, dans une bonne partie du livre. Et comme je vous le disais, on retrouve donc c'est forcément ces réflexions sur les déclarations politiques, parce que c'est aussi là que c'est intéressant, je trouve, dans ce livre, du pouvoir en place, en tout cas qui était en place à l'époque. François Hollande était président, avec par exemple le projet de déchéance de nationalité, où on a aussi les réactions de l'extrême droite et de leur instrumentalisation des attentats pour désigner évidemment tout et toutes les musulmans et les musulmanes comme bouc émissaire, ou encore ceux et celles à gauche qui initient le mouvement Printemps républicain, qui a clairement des relents essentialistes et quand même un peu racistes, ou encore ceux et celles à gauche de la gauche, qui un peu en effet miroir, en fait, mais aussi idéologique avant tout quand même, que l'auteur d'ailleurs désigne comme islamistophile, et pas islamo-gauchiste ou je sais pas quoi. Non, lui, il prend ce terme-là. Qui, eux, en fait, font tout pour nous expliquer que les attentats ne sont que les réponses à des problèmes sociaux, en évacuant finalement tout rattachement des actes des criminels djihadistes à la religion, à l'islam, et avec des visées politiques totalitaires, quand même. Enfin, je crois que quand on se permet de désinguer des dizaines, des centaines de personnes, c'est qu'on a un peu quand même des projets un petit peu totalitaires. Et aussi de tous ces islamistophiles, de tous ces gens qui sont finalement un peu à gauche, on ne sait pas trop vraiment où, qui ont des proximités finalement avec des trucs bien assez puants comme le CCIF ou encore le pire qu'on ne présente pas. Et là aussi, enfin, les islamistophiles, en fait, ils ne voient ni la communication de l'État islamique ni l'antisémitisme, en fait, qui est véhiculé par les fous de Dieu, en fait. C'est des choses qui sont complètement évincées finalement d'une analyse. Alors que comment veux-tu analyser un mouvement, on va dire, mondial quand même, alors qu'ils ont des médias, etc., si tu les regardes jamais, enfin, c'est vraiment tomber dans quelque chose de simpliste et d'absolument pas honnête, en fait, quoi. Bref, il revient sur tous ceux et toutes celles qui utilisent finalement les attentats, donc en partie finalement son histoire aussi et celle de plein d'autres personnes, pour ne servir que leurs agendas et leur idéologie politique, en fait. Et ça, quelle que soit leur position sur l'échiquier politique. C'est ça qui est intéressant, c'est que les objectifs finalement sont les mêmes, c'est se servir de tout ça pour leur propre soupe. On lit aussi Christophe Naudin réagir à Charlie Hebdo, à ses unes, aux réactions qu'elles suscitent. On le lit aussi s'aérer l'esprit. En tout cas tenter de s'aérer l'esprit quand il part en escapade à Saint-Malo ou un peu ailleurs. Il y a bien des endroits qu'il va visiter un petit peu pour sortir de tout ça. Ou encore aussi des moments importants avec les amis, le retour à l'école aussi et les angoisses que ça suscite, en fait, les peurs que ça réveille, parce que d'un coup, merde, attends, s'il se passe quelque chose dans cette classe, comment on fait, quoi? Parce que lui aussi, il se renseigne sur qui sont l'État islamique et il sait aussi que les profs et les écoles sont de potentielles cibles. Et l'histoire nous montrera qu'il avait raison, en fait, malheureusement. C'est tout ça. Et aussi cette relation qu'il a avec les élèves, avec de la retenue, mais pas vide de sens, clairement pas. Il y a vraiment… il y a une forme de d'émotion mesurée. Je ne sais pas comment dire, et qu'en même temps, il y a vraiment, il y a une forme, d'amour, en fait. Il y a une relation quand même avec ce prof et lui avec ses élèves, en fait. Et que voilà, et qu'il refuse aussi les ensembles dans lesquels on enfermerait tous les élèves, etc. Enfin, donc voilà. Et il y a aussi le retour au Bataclan. Une première fois, le Bataclan vide, absolument vide. Et une autre fois, dans un concert. Et là aussi, c'est aussi reprendre la vie en main, en fait. Quoi. Et même le Bataclan, finalement, va revivre, ce qui est aussi intéressant. Il y a vraiment des choses très intéressantes là-dedans. Et il y a aussi les amis qu'on préfère ne plus fréquenter, parce qu'ils puent politiquement. Mais il y a aussi l'amour. Et ça, quand même, c'est beau. Parce que l'amour, il y a l'amour de la famille, il y a l'amour des amis, et qui sait, peut-être une amoureuse, ou on ne sait pas. Hein. Mais c'est, voilà, c'est vraiment tout ce qui, finalement, fait aussi qu'on est humain. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Donc, voilà, vous l'aurez compris, hein, je trouve ce livre vraiment intéressant. On est vraiment pris, parce qu'il le dit dans l'intro, dans un tourbillon, mais en fait, on est pris avec lui dans ce tourbillon, en fait, de pensées, des émotions. Et ensuite, perso, moi, j'ai pas du tout vécu cette situation, et pas du tout. Enfin, j'ai pas de choc post-traumatique, enfin, ou autre.
Et je ne te souhaite pas de la.
Non, moi non plus, clairement pas. Mais il y a vraiment des moments, en tout cas, sur ces réflexions politiques, etc., où je me suis, en tout cas, moi, retrouvé dans certains de ses propos, de ses remarques et de ses interrogations, vraiment, quoi. Et justement, je pense que ça peut aussi intéresser finalement, ça peut vous parler à vous, auditeurs et auditrices, si vous ne vous retrouvez pas forcément dans les propos, les analyses qui nous sont proposées par toute la clique de tocards qui sont cités, que j'ai cité avant, c'est-à-dire des entrepreneurs de la haine, de l'extrême droite au centre, à gauche, et aussi aux islamistophiles. Donc, si vous vous retrouvez dans aucun de tout ça, peut-être que ce livre aussi va vous permettre un peu de, finalement, de mettre un peu de, ouais, je sais pas, de nuance. En fait, c'est pas un camp ou l'autre. En fait, il y a un binarisme là encore une fois qui nuit absolument, je pense, à la pensée. Donc voilà. Et évidemment aussi, la première partie, je l'ai déjà dit, du journal, elle est brute, parfois excessive. En même temps, on peut se rappeler qu'elle était écrite vraiment dans la suite de l'attentat qu'il a subi, qu'il a vécu, avec tout ce que ça engendre, le syndrome post-traumatique, etc. Enfin, vraiment,
et la colère.
Et justement, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est déjà un exutoire, et il y a de la colère, ça c'est clair et net, mais il n'y a pas de haine, en fait. Il n'y a absolument, à aucun moment, il ne fait appel à la haine, en fait, ou il ne voit la haine comme une solution, en fait. Enfin, vraiment, donc c'est vraiment hyper, hyper intéressant. Et justement aussi, la deuxième partie que je trouve avec justement du recul, qui vient amener justement un regard plus posé, peut-être plus constructif aussi, mais quand on écrit sous le coup de la colère, etc., c'est toujours bien de prendre un pas de recul, et c'est intéressant qu'il l'ait fait après, parce que vraiment, sa première volonté, c'est d'écrire ce journal en mode brut, comme il est. Donc voilà, c'est un livre qui parle finalement d'un individu qui cherche à guérir, à se construire ou se reconstruire, vous mettrez le mot que vous voudrez, sans effacer ni falsifier les faits, parce que ça, c'est absolument, je pense, détestable, et qui, dans tout ça, en fait, cherche juste à reprendre la main sur sa vie, que des mecs avec des calaches ont essayé de lui enlever, et que, finalement, tous ces vautours de toute obédience politique qui se nourrit de tout ça, volent aussi, finalement, la vie de toutes ces personnes. Donc, c'est hyper, enfin, vraiment, moi, j'ai vraiment apprécié ce bouquin. Donc, je rappelle, c'est Journal d'un rescapé du Bataclan, être historien et victime d'attentats, c'est de Christophe Naudin, c'est aux éditions Libertalia. Et puis ben voilà, toi tu as commencé à le lire, Fab, je crois.
Ouais, j'ai pas encore terminé, je l'ai trouvé très bien, de ce que j'ai pu dire, j'ai lu quasiment tout le livre, hein, donc voilà, il me reste quelques pages à finir. Moi, j'ai beaucoup aimé, et il y a surtout quelque chose que j'ai aimé, c'est que c'est une parole de victime, et je trouve que c'est bien, parce que sur les plateaux, il y a beaucoup d'experts, ou d'experts autoproclamés, quel que soit d'ailleurs le camp politique de l'expert autoproclamé. On voit plein de gens qui ne sont jamais sur le terrain, qui n'ont jamais rien vu, mais qui font plein de belles études de loin. Et là, en fait, pour une fois, on est plongé dans ce qu'une victime a ressenti. Et on a en plus… il y a des fois où moi, je me suis dit, il est balèze parce que je ne suis pas sûr que je n'aurais pas été plus en colère que lui. Mais vraiment, je me suis dit, mais il a une capacité quand même… je dis ça, mais je ne l'ai pas vécu, donc j'en sais rien comment je serais. Mais quand on le lit, je me suis dit, mais moi, peut-être que j'irais plus loin que ça, peut-être que je serais plus en colère, peut-être que là. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, oui, c'est un témoignage de victime. Il est brut, par moments, il est violent, mais parce que la vie est violente. Il faut arrêter un petit peu de toujours se cacher derrière son petit doigt. Que oui, un attentat, c'est violent. Donc forcément, ça laisse des traces violentes. Genre, là, je suis désolé, hein, mais c'est un peu le béaba, mais c'est comme ça. Mais en même temps, il a empreint quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est que malgré tout ça, il n'est pas misanthrope.
Non.
C'est que malgré tout ce qu'il a vécu, il garde, je vais le dire un peu avec mes mots, il garde un sacré poids d'amour pour l'humanité et c'est super impressionnant à lire. Moi, je vous laisse rien que pour ça. Je trouve le livre vaut le coup parce que voilà, c'est quand même. Il avait toutes les raisons du monde de devenir misanthrope et de vouloir la fin de l'humanité, mais vraiment, hein, toutes les raisons étaient là. Et en fait, au contraire, je trouve que son livre, il est empreint d'une espèce de colère saine et d'une envie de changer les choses et d'arrêter de voir l'humanité s'entretuer pour des conneries. Et ça fait un bien fou, vraiment, bizarrement. Ça, malgré l'horreur de tout ce qu'il a vécu, malgré l'horreur de ce qu'il peut vous raconter, y a ça en dessous et je vous assure que ça remonte le moral, bizarrement.
Voilà. Ouais, et que, en plus, je trouve que c'est aussi revenir sur des événements qui, quand même, dans une grosse partie de la gauche, enfin, je dirais peut-être même plus de l'extrême gauche, en fait. Et voir des anards qui ont un peu foutu ça sous le tapis, en fait. Enfin, il y a effectivement les commentateurs et les experts de l'instant, mais en fait après on n'en parle plus, en fait on n'a pas vraiment pensé, on se planque chacun dans ses petites analyses sociologiques de mes deux qui en fait c'est vraiment on foutu tout ça sous un tapis, et je trouve que c'est hyper intéressant justement de revenir sur cet événement, pas par un mec de droite, je sais pas quoi, justement par quelqu'un qu'on connaît quand même, enfin qui a des positions politiques vers lesquelles on peut quand même se dire ouais bon ben c'est un compagnon ou un camarade de route, et que oui justement il y a quand même de la critique et il y a pas de bêtises binaires en fait comme on est trop habitué à en bouffer dans certains milieux, quoi.
Mais on le retrouve, hein, de toute façon, cette volonté d'effacer quelque chose, c'est-à-dire que on va plus ou moins appuyer là où, voilà, moi je l'ai vécu à l'extérieur, de loin, hein, je parle, mais dans certains milieux, avec les premiers attentats de Mera, en fait, oui. Où d'un seul coup, les morts de l'école juive n'existaient plus. C'est-à-dire qu'on parlait bien des militaires, mais en fait que le gars ait pu rentrer dans une école et attraper une gamine et lui mettre une balle dans la tête, fallait pas en parler, ou du moins c'était secondaire. Et on voyait bien, en fait, pourquoi ? Parce que ça rentrait pas dans l'agenda politique des gens qui en parlaient. Et que, du coup, c'est problématique. Parce qu'en fait, en face, c'est des gens qui ont une idéologie. C'est pas des gens qui sortent du bois comme ça. C'est pas des loups solitaires. Ça existe pas, les loups solitaires. Ça se construit, en fait, à une idéologie tout le temps. Et ces personnes, en fait, elles sont juste dans une idéologie politique. Et ça se combat par le politique, mais surtout pas en cachant les choses, ou surtout pas en enlevant ce qui nous embête. Parce que ça colle pas avec le schéma qu'on avait préétabli avant. Et je trouve que c'est, ce livre a aussi cet aspect-là, c'est qu'il a un aspect salvateur sur ce côté-là, dans le sens où ben, justement il n'enlève rien et voilà, c'est important de ne rien enlever, d'essayer de ne rien oublier.
Pas falsifié. Mais vraiment.
Et moi je le dis parce que je suis un peu comme l'auteur, il le dit dans son livre, je crois qu'il y aura du négationnisme sur les attentats assez rapidement et il y aura besoin de témoignages pour qu'on se rappelle de ce que c'était. Donc ce livre a au moins cette volonté-là.
Et il revient aussi justement dans le livre sur les attentats de Mera et ses assassinats qui finalement ont vraiment on a absolument balayé l'antisémitisme qui sointe de ces assassinats, quoi. Donc là aussi est effacé évidemment par une grosse partie de l'extrême gauche, mais pas de gros ensembles encore
une fois, mais aussi de l'extrême droite,
aussi,
parce qu'il y avait aussi ça, c'est-à-dire qu'en fait il y avait cette envie de faire comme si cette partie-là n'existait pas parce qu'elle rentrait pas dans le schéma politique.
Ouais. Voilà. Et pourtant, l'extrême droite, toutes les extrêmes droites partagent quand même un peu cet antisémitisme. Enfin bon, et ben voilà, on a parlé de ce bouquin. On va
redit.
Oui, c'est le journal d'un rescapé du Bataclan aux éditions Libertalia de Christophe Naudin. Et on va tout de suite partir sur la plage. À tout de suite. Thank you. vous êtes de retour dans la causerie sur Radio Canu, toujours au 102.2 sur radiocanu.org, toujours la causerie en version confinée et enregistrée la veille. Donc, on vient de s'écouter. Ouais, vous allez vous dire, il n'arrête pas, mais ouais, j'arrête pas. titre de Altarba et des Guy Eugui avec le titre La plage. Toujours issu de ce cabinet des curiosités d'Altarba où le principe est un nouveau titre toutes les semaines. Voilà.
Et amis auditeurs, amis auditrices, vous aurez compris quand même que heureusement qu'Altarba fait de la musique, sinon Charlie n'aurait rien à passer.
Mais quelle basse! Oh, quelle basse attaque! C'est... Oh là là!
Mais c'est pas vrai parce que tu aurais envie de parler d'un concert là maintenant.
Mais oui! Mais tout à fait, parce que bon, on n'a pas vraiment de brève, tout ça, c'est compliqué le samedi, on sait pas s'il y a des manifs qui se feront la semaine suivante. Mais il y a un petit truc, plutôt même un grand truc, c'est les King's Queer. Vous connaissez Grib et Let, qu'on a déjà reçu dans la causerie et qui nous ont déjà reçu aussi dans leur émission sur Radio Bip. Donc c'est le 11 février à 20h30 qui vont faire en fait un concert via les réseaux. Donc c'est cool parce que c'est toujours de l'art qui existe, qui vit malgré le confinement, malgré tout ça. Donc, pour vous dire comment faire, moi, je vous invite à taper King's Queer Facebook, même si vous n'avez pas Facebook. Logiquement, vous n'avez pas de compte dessus. Vous pouvez accéder à leur page. Et un des premiers posts, ce sera ça. C'est un événement sur lequel il faut juste s'inscrire. Mais voilà, je me disais que c'était cool. Gribelet, c'est quand même les copains et copines. Et donc, voilà. Donc, c'était cool qu'on puisse les écouter en live, faire de la musique. Donc, c'est le 11 février à 20h30. Sur les réseaux.
Voilà.
Et ben voilà, je crois qu'on s'est tout dit.
Non.
Ah non ?
Non, je sais pas.
Bah si, je crois. Je crois qu'on a ça tout dit, qu'on s'est tout dit, qu'on a tout dit.
On se a tout dit.
Ah. Ah, Clara. Tu es de retour, non, je déconne.
Je suis toujours là. Je vous écoute et je vous vois.
On va écrire des livres sur toi, fais gaffe. C'est un individu qui voit et qui écoute le monde.
Et qui entend tout
et qui voit tout, là, là. Enfin bon, donc on va se quitter avec un dernier titre. Nous, on vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, toujours de 22h à 23h sur l'antenne de Radio Canu. Et on se quitte avec…
Eh ben, je vais vous l'annoncer, mais avant, je vais faire une petite présentation, vous allez comprendre pourquoi. Il y a une chanteuse qui s'appelle Isult, que vous connaissez peut-être ou pas en ce moment, qui reprend de plus en plus de titres de Dalida, parce qu'elle trouve que Dalida était une chanteuse merveilleuse qui écrivait particulièrement bien. Et je partage parfaitement cet avis d'Isult, mais surtout, elle a fait redécouvrir aux gens, il n'y a pas très longtemps, un titre qui s'appelle « Love in Portofino ». Et c'est un titre assez peu connu de Dalida. Et je me suis dit, bah tiens, si je passais l'original. Donc, on va se quitter avec Dalida et un titre qui s'appelle donc « Love in Portofino ». Trois langues, trois façons de chanter, trois façons d'aimer. Voilà.
Eh bien, très bien, joli programme.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bonne semaine à vous toutes et tous. Et
Bisous.
Des bisous. Ciao.
Ciao, ciao.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. Chiudo gli occhi e a me vicino, a Portofino, rivedo te. Ricordo un angolo di cielo, dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. Found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino, a Portofino I found my love. Ilia veta Portofino, un vieux clocher qui sonnuait. ne sonnaient que les matines, quand Portofino se réveillait. Mais après cette nuit divine, on l'entendit sonner un jour, même jusqu'aux villes voisines de Portofino pour notre amour. Je vois le mari qui m'emporte et le petit chalet de bois dont il me fait franchir la porte en me portant entre ses bras. À chaque fois qu'à Portofino le vieux clocher sonne là-haut, il chante notre mariage vers les nuages. À Portofino, I found my love, I found my love, I found my love.
Là, je peux faire stop.